Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on rencontre ce matin un décroissant nomade. Jean-Louis Besson, j'aimerais commencer par une question indiscrète. Mais pas obligé de répondre. Mais j'aimerais peut-être que vous me parliez de vos origines, de votre enfance. Enfin, pas nécessairement me raconter votre vie, mais d'où est-ce que vous venez, où êtes-vous né? Est-ce que c'est un point qui se déplace sur une carte ou est-ce qu'il y a un point précis?
Non, c'est un point fixe. C'est en Charente-Maritime, au bord d'un ester, la Temblade, où j'ai passé 13 années. Avant de partir pour des raisons professionnelles et puis après de prendre le voyage.
Hein. 13 années ? Mais vous n'avez pas commencé à travailler à 13 ans quand même ?
Non, mais je suis parti au collège technique interne. Voilà, j'appelle ça quitter le pays à partir de là. Et puis après, s'est enroulée la vie de chaudronnier et je suis parti comme ça.
Chaudronnier ? C'est ce que vous aviez choisi ?
Oui et non. Ne sachant pas trop quoi faire, on m'a fait passer un stage psychotechnique et de là, j'ai aimé. Après, c'est un métier que j'ai bien aimé, tout en n'ayant pas décidé au départ. Mais c'est un métier merveilleux quand même, et surtout au niveau des formes.
Vous fabriquiez des chaudrons ?
Non, on ne fabriquait plus les chaudrons à l'époque, bien qu'au collège, oui, on nous a fait fabriquer poêle, théière. Mais après, c'est dans l'industrie, donc c'est le travail, mettons, on imagine, les citernes de camions, les grosses choses comme ça. Mais après, il y a un dérivé, c'est la dinanderie, qui est le travail des métaux, mais la même chose, mais pour les objets culinaires.
Donc le cuivre,
le béton, l'aluminium, même l'étain. Donc ça, on avait une base pour faire aussi ça. Mais moi, après, j'ai échoué quand même dans la chaudronnerie industrielle, dans la construction de citernes de camions. Et après, j'ai pris des cours du soir, je suis venu dessinateur industriel, en faisant les chantiers en Belgique, un peu en Hollande.
Et en fait, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez quitté l'usine, et en quittant l'usine, vous avez quitté votre point fixe.
Oui, quitté le point fixe, et après une période, disons, de vie communautaire.
C'était dans quelles années, ça ?
Années 60, fin des années 60.
Donc c'est mai 68 ?
Ah voilà, mai 68, et puis 69, 70, jusqu'en 71. Avec dans la tête toujours une idée de voyage, avec les caravanes à chevaux, enfin les roulottes.
Dans la tête, mais pas seulement dans la tête, Jean-Louis Besson.
Oui, pas seulement dans la tête, ça s'est mis après, évidemment, ça s'est concrétisé. Mais je pense que mon enfance aussi a été bercée par un grand-oncle, qui a été mon maître à penser dans les années, donc quand j'avais 10, 12, 13, jusqu'à une vingtaine d'années. Et cet homme-là n'avait pas fait la guerre de 14 ni la guerre de 39 pour des raisons d'âge. Et était maraîcher, et entre son lieu de travail, c'est-à-dire le jardin où il avait son maraîchage, et le village, il y avait un campement de tziganes. Et je pense que c'est comme ça que ça a démarré, l'idée de prendre cette vie comme phare un peu. Et effectivement, après le reste de ma vie, tout doucement, je suis parti sur cette orientation-là, quoi. Avec une petite roulotte qui tourne dans la tête, comme dit la chanson, quoi. Voilà.
C'est-à-dire que quand vous allez rendre visite à votre grand-oncle, vous vous arrêtiez dans le camp de tziganes ?
Voilà. Et comme c'est un homme qui aimait bien danser...
Ah, vous alliez avec votre grand-oncle ?
Oui, on passait devant. Et comme il n'avait pas de voiture à l'époque, hein, donc lui et moi non plus. Et cet attrait qu'il avait, lui, pour ces gens-là, par la danse, bon, un peu, il buvait un petit peu aussi, le coup. Et ce qui fait que je me suis trouvé beaucoup de fois avec cet homme-là sur le terrain. D'ailleurs, des gens que j'ai revus après, que plus tard, des enfants qui avaient mon âge à l'époque.
Quand vous êtes parti, dites-vous, il y avait deux choses. Il y avait d'une part le désir de vie communautaire, donc c'est pour ça que j'ai tout de suite fait le lien avec mai 68. On voit la filiation culturelle. Et puis le désir de voyage, qui donc, lui, vous venait de votre enfance. Mais vous avez commencé par la vie communautaire et ensuite vous avez dérivé ou bien... Parce que vous avez évoqué les roulottes à cheval, donc là j'aimerais qu'on désenchevêtre un petit peu ces éléments.
Oui, alors déjà quand j'étais dessinateur industriel, j'avais déjà, enfin avec ma femme, la mère de mes enfants, on avait déjà une caravane, on vivait en caravane, voilà, on a passé 3 années comme ça. Nous sommes arrivés en groupe aussi avec cette caravane qui nous a servi de monnaie d'échange au départ.
De dot plutôt.
De part, oui, de dot. Et voilà, de dot pour le groupe. Et qu'on a récupéré après quand le groupe s'est planté. Et ensuite, on a même rêvé de faire une communauté en roulotte.
Comment on fait ça?
On voulait même faire un atelier pour travailler le bois. On a travaillé un atelier pour travailler le métal, comme moi je sais faire.
Donc il y aurait eu une roulotte pour le bois, voilà, une pour le métal.
Voilà, et des roulottes pour vivre, hein, voilà. Bon, c'est resté en théorie. Et après, quelques temps après, quoi, j'ai été le seul à prendre la route avec une caravane à chevaux, enfin une roulotte.
On trouvait encore facilement à acheter des roulottes à cheval à l'époque?
Non, mais chez les tziganes, souvent les roulottes sont brûlées quand la personne est décédée. Et secondo, j'aime bien faire les choses, donc, et j'avais la connaissance, enfin les possibilités techniques, donc j'ai fabriqué les roulottes, la première avec laquelle on est parti. Et sinon, on ne trouve pas tellement de roulottes maintenant. D'abord, il n'y a plus beaucoup de voyageurs à chevaux, quoi. Même à l'époque, déjà, c'était un peu limite.
À l'époque, c'est-à-dire au début des années 70?
Oui, au début des années 70, ça commençait un peu qu'à ceux qui voyageaient avec des chevaux étaient des gens qui, à l'époque que la voiture est arrivée, c'est des gens qui ne pouvaient pas se payer la voiture. Voilà, les premiers. Et après, ceux qui restaient dans les années 60 et 70, c'est des gens qui, au contraire, étaient fiers de revenir à la tradition avec les chevaux. Donc là, on trouvait quelques-uns, mais bon, après, ça s'est éteint. Hein. Ça s'est éteint. Bon, d'abord, la circulation, et puis, pour certains aussi, il avait mieux valu que les voitures arrivent, parce que les chevaux n'étaient pas toujours bien traités, quoi. Voilà. Donc, après avoir fabriqué cette roulotte, donc, il fallait trouver un moyen de subsistance. Donc, en fréquentant ces fameux tziganes, j'ai appris à faire les paniers et les fonds de chaise. Et on a vécu pendant longtemps comme ça.
En faisant du porte-à-porte?
Oui, en chinant, on appelle ça, oui. Ou dans les villages, déjà, et en suspendant les paniers à l'endroit où on est arrêté. Ou alors en chinant, c'est-à-dire en faisant du porte-à-porte. Même à l'époque, c'était déjà assez difficile, quoi. Les portes s'ouvraient pas facilement. Et pour ce qui est des chaises, les gens venaient à la roulotte et demandaient si on faisait leur embaillage, quoi.
Qu'est-ce qui vous faisait poursuivre cette vie-là, Jean-Louis Besson? C'était un romantisme, une envie de vivre la vie des tziganes?
Je pense que ce n'est pas un choix que j'ai fait. C'est en moi, depuis que je suis tout petit. Bon, j'aime à dire, c'est comme la moustache, quoi, je l'avais à la naissance, en gros. Donc, c'est un peu le même truc. Et j'ai peur d'être cerné par les choses, être encombré. Donc ça, c'est depuis que je suis tout petit. Ma mère m'a raconté, moi, j'aimais pas avoir des objets sur le bord de mon lit, sur le petit meuble qu'on avait, cosy, ça s'appelait. Elle me dit, toi, tu supportais pas beaucoup d'objets. Donc je pense que c'est ça. Et après, avec le mouvement des années 60 et 68, je trouvais que c'était une formule pour contrer ce qu'on reprochait à nos parents.
L'accumulation.
La consommation, voilà, la société de consommation. On est maintenant à puissance X maintenant, mais à l'époque déjà, parce que les parents avaient acheté un frigo blanc et une cuisinière blanc. Et ça, je pense que ça a été une mode de contestation qui m'a fait aussi continuer ce genre de vie, quoi.
Parce que là, ce que vous avez décrit jusqu'à présent, c'est une vie quand même relativement difficile. Il y avait vendre des paniers.
Justement. Et oui, c'est pas vraiment comme ça que je le lis, moi. Je trouvais déjà à l'époque que c'était beaucoup plus difficile, même avec les diplômes, mettons, que j'avais, moi, de travailler en société. Beaucoup plus contraignant, beaucoup plus. D'accord, on gagnait beaucoup plus d'argent. On pouvait s'émanciper par le matériel, enfin avoir pas de choses, mais c'était pas un piège, mais bon, ça me convenait pas. Personnellement, hein, c'est pas une théorie, moi j'ai pas de. Chacun fait comme il veut. Mais donc, dans le mode nomade, il y a une grande légèreté. C'est l'antinomie qu'il y a entre nomade et sédentaire. Le nomade, il a son grosse angoisse, c'est d'avoir trop de choses pour ne pas pouvoir s'en aller. Et le sédentaire, enfin c'est un schéma, mais bon, la personne qui accumule et achète deux choses, le double, le triple, la même, c'est pas la même couleur, enfin voilà. Et ça, pour moi, ça me semblait encombrant déjà depuis, je pense, que j'étais tout petit, comme je viens de dire. Et ça tombait bien dans le mouvement de contestation.
Tout de même, pour mener cette vie, les Tziganes, si on repense à eux, ils ont des réseaux, ils ont des familles larges, ils ont des points de rencontre, ils ont des toute une vie sociale. Est-ce que vous en aviez une aussi ? Et de quelle manière ?
Bon, la vie sociale des Tziganes est très famille élargie. Ils ont besoin de ça, beaucoup plus que nous, même dans la vie en général, quoi. Donc nous, on ne souffrait pas de ça. On a roulé aussi avec d'autres personnes, mais on était quand même moins exclus, tout en étant ayant des difficultés pour s'arrêter, stationner, on va dire légalement, mais on s'est pas senti exclu de la société.
Ouais, c'est difficile de trouver le mot. Française, normale, sédentaire.
Oui, société normale, oui. Société normale.
C'est pas beau, hein.
Non, c'est pas beau. Mais on s'est trimballé avec ces fameux carnets de circulation. Même étant pas de Tziganes, il fallait un titre de circulation pour circuler en France. Plus de 6 mois dans l'année sans domicile. Moi, je n'ai jamais voulu de domicile. J'en veux toujours pas. Donc, on s'est trimballé, bon, ça a une 40aine d'années avec ça. Et dans le premier qu'on nous a donné, il fallait pointer tous les mois aux gendarmes, il fallait aller à la police tous les mois pour qu'ils mettent un tampon. Et là-dedans, il y avait déjà au départ le teint et la corpulence qu'il n'y a pas sur les trucs. Et il y avait le texte à la fin, on nous remettait ce titre de circulation, ça s'appelle comme ça, parce que nous n'avions pas des revenus nous permettant d'avoir des conditions normales d'existence. Donc on arrive à ça, à ce truc-là, quoi. C'est grave, enfin c'est grave. Et ça a subsisté jusqu'au dernier là que les députés viennent de faire sauter définitivement, j'espère. Bon, ça datait de Vichy. Ça s'est un peu amélioré en 81. Bon, ils ont appelé les gens qui bougeaient comme ça les gens du voyage au lieu de nomades. Ça faisait caca sans doute. Hein. Et puis pointé après tous les 3 mois au lieu d'un mois. Voilà, ça c'est et ça c'est arrivé jusque encore là il y a un an.
Voilà. Et donc dorénavant, vous voilà enfin dégagé de l'obligation d'aller pointer à la maréchaussée.
Et voilà, ça c'est fini, c'est fini.
Comment vous le vivez ça ?
Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Maintenant, je ne sais pas encore si on va avoir droit à une carte d'identité normale à la place, si ça va être marqué quand même la commune de rattachement. Enfin, je ne sais pas encore ça, je ne sais pas renseigner. Mais bon, c'est sûr que le côté de tous les mois ou tous les 3 mois, ça a sauté. Tous les 2 ans, il fallait revenir aussi dans la commune de rattachement. Ils appelaient ça la prorogation. Ils s'en cachaient pas parce que le texte de la loi de même de Couve de Merville et de Gaulle, le premier là, qui a été parce qu'avant c'était encore plus dur, même celui-là, l'objectif, il est fait dans le sens de sédentariser. On va toujours vers ce truc-là.
Mais alors ça c'est quelque chose de très difficile à comprendre, Jean-Louis Besson. Vous avez commencé en disant s'arrêter c'était toujours très difficile et en même temps, de fait, tout est fait pour empêcher de circuler les nomades.
Oui, alors c'est si vous voulez vous arrêter, faut vous arrêter sur des endroits maintenant bien précis. Bon là, c'est autorisé, mais c'est des parkings, c'est pas du tout. Là, ça aborde un peu le sujet de la philosophie un peu du voyage. Qu'est-ce qu'on attend ? Nous, je dis moi, je suis pas Tzigane, hein, mais les gens qui voyagent, il y a pas que les Tziganes, il y a d'autres gens comme ça. Parce que tout ce qui est décidé, c'est par les sédentaires, enfin entre guillemets quoi. Les 3/4 des textes de loi qu'on peut regarder sur Internet, qui se rattachent aux différentes lois là de toutes ces années, c'est des textes répressifs pour dire il faut se mettre comme ci, il faut se mettre comme ça. Même la loi actuelle là, on enlève ce fameux livret, le dernier titre de circulation, donc il n'y a plus. Maintenant, il va falloir se mettre dans des terrains bien appropriés qui peuvent être regroupés au niveau des cantons, Vous ne pouvez pas vous arrêter dans un petit village, par exemple.
Voilà. Avant, ça ne sera plus possible.
Voilà, maintenant, la loi, c'est comme ça. Le maire pourra tolérer, mais il pourra aussi obliger à faire les trucs. Ça n'existait pas avant.
Donc, vous êtes petit à petit poussé toujours davantage vers les fameux parkings.
C'est encore comme ça, hein, quand on lit entre les lignes maintenant. Le but, c'est toujours de sédentariser les nomades, de rentrer dans la normalité. L'issue, c'est ça.
Vous devez vous sentir un peu cerné, non ?
Cerné par... De toute façon, on l'est tous. Hein, on est cerné par des contingences. Et là, c'est sûr que au niveau du stationnement, c'est foutu, quoi. Bon, parce que quand vous discutez avec un nomade, bon, il y a beaucoup de poésie dans sa vie, dans ce qu'il attend. Nous, Un point d'eau, par exemple, bon, c'est important, mais c'est pas la primauté de ce que l'on demande pour s'arrêter. C'est plutôt un endroit beau, un peu libre, quoi.
Vous en avez trouvé beaucoup, quand même, si on revient à votre vie maintenant, des endroits beaux où s'arrêter?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y en a encore. Mais c'est souvent squatté par les aménagements. C'est-à-dire une petite table, des choses comme ça, qui nous bloquent après, ou les bars, pour empêcher les véhicules de plus de 2 mètres de rentrer. Ça aussi, c'est un gros handicap. Bon, sur le littoral méditerranéen, à toute la côte, depuis Marseille jusqu'à... C'est pratiquement impossible de s'arrêter. Je l'ai fait par expérience. C'est très difficile. De la côte jusqu'à Matimille, quoi. Il y a des cailloux partout, il y a des bars partout. C'est une volonté, quoi, de la part des municipaux.
Comment est-ce qu'on fait pour échapper à ça?
Eh bien, on continue et on arrive toujours à trouver quand même une petite place.
Il faut chercher les minuscules chemins, voilà, les minuscules petites routes.
Voilà.
Les failles dans le système.
S'éloigner un peu, de plus en plus, évidemment, des lieux un peu aménagés. Donc, il faut un peu... Mais on trouve toujours un coin. Et c'est moins beau.
Au départ, Jean-Louis Besson, vous étiez dans une roulotte avec des chevaux. C'est comme ça que vous avez toujours vécu, non?
Non, je n'ai pas toujours vécu comme ça. Donc, j'ai vécu jusqu'à une douzaine d'années à peu près avec les caravanes à chevaux. Et après avec une charrette, mais avec les chevaux.
Une charrette?
Une petite charrette, oui. Un petit deux roues.
Voilà. Une charrette à bras?
Pas à bras, mais à cheval. Une petite charrette avec un cheval devant. Et c'est encore une autre forme de voyage.
Pourquoi est-ce que vous aviez choisi ça?
J'avais envie de faire un voyage en solo. Voilà. Et pour aller un petit peu plus loin que la France, avec les roulottes, on tournait simplement en France. Donc là, je suis allé en Italie.
C'était plus facile avec une charrette?
Oui, c'est plus léger. On peut prendre les petits chemins, les petites routes. C'est surtout ça. Là, la vitesse. Enfin, on peut faire de la vitesse si on peut parler vitesse. Voilà, on peut faire du trot, voire du galop. Donc voilà, vous restez. S'il faut dégager d'une route un peu, vous lancez le cheval un peu au trot, ou au moins, et même au galop, hein, ça m'est arrivé. Donc hop, on est sorti des embouteillages. On avait des chevaux bien dressés, évidemment. C'était un peu ça le but de ce petit attelage.
Mais donc, dans une charrette, vous ne pouviez pas dormir ou manger?
C'était pas un camping-car, bien sûr, mais il y avait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il faut pas grand-chose, en fait, pour vivre. Bon, manger, ne pas avoir froid et se laver.
Donc, dans une charrette, on peut ne pas avoir froid?
Oui.
À condition de rouler l'été?
Non, moi, j'ai pas de saison. J'ai roulé tout le temps, à condition d'avoir des vêtements chauds et puis d'avoir un petit chauffage. Du bois, on en trouve partout. Un petit poêle, par exemple, ça marche très bien.
Et pour vous nourrir?
Pour se nourrir, alors c'est un peu la contradiction aussi du voyage, parce que, bon, il faut des agriculteurs pour pouvoir produire. Bon, à l'époque des roulottes, je m'en rappelle beaucoup, là, surtout dans les Landes, le Gers et tout ça, c'était l'époque où on pouvait beaucoup troquer, notamment avec les agriculteurs, qui préféraient d'ailleurs nous échanger des oignons ou des pommes de terre ou des haricots, tout ce qui était de saison, plutôt que de payer avec de l'argent.
Ça, c'est... Mais échanger contre quoi?
Contre du travail, pardon. Contre soit les paniers, ou soit les travaux. On a fait aussi des travaux saisonniers, ramasser les légumes, les fruits. Donc là, il y avait un échange possible. Ce qui fait qu'on se retrouvait même... On était avantagés avec le troc, parce qu'on se retrouvait avec beaucoup plus de choses que si on avait dû acheter avec l'argent la même chose en épicerie. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. Après, bon, il y a eu avec la charrette, bon, il y a les travaux saisonniers. Là, j'ai abandonné la vannerie. Et bon, les travaux saisonniers, vous pouvez vivre comme ça un peu partout dans le monde, à condition, dans le monde, je sais pas, mais en tous les cas en Europe, où je suis allé, moi, à condition d'accepter les conditions, qui sont effectivement des conditions de travailleurs immigrés en général. Voilà. Quand vous ramassez le fenouil, vous êtes avec un Russe, une Ukrainienne, des gens qui ont accepté d'être payés pas cher. Voilà. Vous ramassez les oranges, en Grèce, c'est les Pakistanais, parce que à 50 euros, ils ne payent pas pour ramasser les oranges, c'est 25 euros la journée. Alors quand on a des petits besoins, on s'en sort toujours.
On vous a laissé en train d'aller en Italie tout à l'heure, là maintenant vous évoquez la Grèce. Comment est-ce que ça se passait un peu partout pareil, l'accueil des nomades ou le non-accueil des nomades? Là, vous avez évoqué La législation, la réglementation, vous n'êtes pas étendu dessus, Jean-Louis Besson, mais on sait bien que les relations entre sédentaires et nomades, en France en tout cas, sont loin d'être cordiales. Et comment ça se passe dans les autres pays?
Alors, c'est fluctuant, hein, ça dépend d'un pays à l'autre. Bon, là, j'étais un nomade particulier quand même, avec la charrette et le cheval. Donc, en Italie, c'est un pays accueillant. Donc je pense, et là ça s'est toujours très bien passé.
C'est-à-dire que vous alliez demander si vous pouviez vous arrêter quelque part?
Non, en Italie c'est pas la peine de demander, enfin à condition, faut pas franchir un portail, s'installer à côté de la piscine et sur la pelouse, hein. Mais dans les villages c'est pas nécessaire, hein. Vous demandez là la petite place et hop, oui, tu peux te mettre là, il y a pas de problème. Bon, la Grèce, c'est un peu comme ça. Hein. Enfin, tous les pays, à partir d'une ligne Pescara-Napoli, là, voilà, là, vous êtes sauvés, en gros. Voilà, il n'y a pas de problème. Et ça se passe assez bien.
Mais parce qu'il y a beaucoup de nomades? C'est-à-dire, c'est davantage dans les mœurs?
Non, à part la Roumanie, où il y a une tradition. En Grèce, il y a très, très peu. Italie, ils sont presque tous sédentarisés depuis déjà un paquet d'années. C'est peut-être pour ça aussi que là, vous n'êtes pas catalogué comme nomade. Ouais, avec ce mot, quoi, de voleur de poules et compagnie.
Mais vous suscitez la curiosité?
Alors voilà, c'est ça aussi qui faisait sans doute la tolérance, hein, l'attrait. C'est sûr qu'avec un gros animal, une grosse jument en Italie, bon, c'est déjà gagné parce qu'il n'y a pas de gros chevaux comme ça. Donc ils vont voir l'animal avant de venir vous voir. Bon, ça c'est clair.
Et ça crée un lien.
Ça crée un lien, voilà. Alors bon, bah, c'est bien, bon. Après, je pense que si vous êtes en Roumanie avec moi, je ne suis pas allé avec un cheval. Mais là, ça doit être encore plus facile parce que les gens voient la nécessité du cheval. Il faut le nourrir, faut l'eau, voilà. C'est qu'on retrouvait dans les relations dans les petits villages français. Il y avait encore des personnes âgées qui tout de suite nous amenaient un seau d'eau ou parce que ils savaient qu'un animal, ça doit boire, par exemple.
Et comment vous faisiez pour le nourrir? Votre cheval?
Alors là, c'est que des restes toujours, à part un peu de foin de temps en temps. Mais
vos restes?
L'hiver. Non, des restes de culture, enfin, des friches, des coins avec des ronces, enfin bon, il y a toujours. Surtout, peut-être un peu plus en France que dans les pays comme la Roumanie. La Roumanie, tout est cultivé. Le souci, c'est pas ça. Même en France, ça n'a jamais été les chevaux. Hein. Jamais été les chevaux. Une ou deux fois, on s'était planté sur le. On l'avait mis dans un lotissement. C'était un lotissement privé plutôt qu'un lotissement communal. Voilà. Mais autrement, non. En France, c'était le problème, c'est le stationnement des gens. Hein. Et là, après, dans les autres pays, il n'y a plus le problème des stationnements. Aucun, quoi.
Il n'y a pas de peur?
Non. Enfin, quand les Italiens parlent quand même du monde du voyage, il y a quand même cette espèce de peur, quand même. Hein. Ils sont tous voleurs de poules. Enfin, voilà, ils n'aiment pas trop les voir tourner, mais c'en est encore comme dans les années 50. Moi, je me rappelle, étant gamin, les Tziganes, les familles qui étaient dans la région de la Tremblade, elles étaient dans le village. Elles n'étaient pas d'abord à côté des ordures, comme c'était le cas à la fin. Voilà, là-bas, on ne vous met jamais comme ça. C'est humiliant pour un Italien, un Roumain, un Turc, qui ne vous mettra jamais à côté de
la station d'épuration, des poubelles, etc.
Oui. Je ne cite pas le nom, mais là, dernièrement, on m'a demandé de me déplacer à un endroit que je gênais absolument personne, communal. Le maire m'a indiqué un endroit. Voilà. Quand je suis arrivé, c'était la station de Uzec, voilà. Donc quand il est venu me voir, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, vous savez, moi je viens de pays où on met jamais quelqu'un à dormir à côté des toilettes, quoi. Ça se fait pas, ça. Voilà. Donc c'est pas tout comme ça. Hein.
Mais là, Jean-Louis Besson, vous nous parlez beaucoup de vos contacts avec les autorités locales, les maires, et on sent qu'effectivement beaucoup de choses passent par eux. Mais il y a la population aussi, non?
Alors, en France, on avait remarqué, c'était bon, les gens viennent aussi nous voir assez facilement quand même, une partie. Mais comme quand vous arriviez dans les années 70-80 surtout, même jusqu'en 90, quand vous arriviez dans un village et que tout de suite l'autorité arrive, on appelait ça les bleus, bon, les camions bleus, là, les petits camions de la police, donc arrivent. C'est sûr que pour les gens, ça y est, vous êtes recherché, il y a un problème, vous avez dû faire des salades. Ça, on nous l'a raconté souvent, quoi. Après, les gens nous disaient, vous savez, on a vu le gendarme arriver, donc on n'a pas voulu, voilà. Bon. Mais la population en France, c'est mitigé, on va dire, ça dépend des gens. Et puis, par contre, il y a d'autres régions, bon, pour ne parler que l'Italie ou la Grèce ou même la Roumanie. Bon, là, il n'y a pas de. J'ai jamais senti une quelconque réticence à mon égard.
Il y a même eu des fois où vous avez été accueilli.
Il y a des fois où j'ai été accueilli, bon, notamment sur les pays comme la Turquie. Bon, on n'a même pas voulu que je dorme dans mon petit piaggio, là. Et toujours bien accueilli quand vous regardez le matin, quand ils commencent à ranger les matelas, les couvertures. Bon, on vous a donné le fin du fin, le meilleur et la meilleure pièce. Ou même ils se sont tous réfugiés dans une pour vous laisser la pièce. Bon, ça, c'est la Turquie. Bon, ça surprend un Français.
Mais voilà. Ils vous connaissent pas. Ils vous accueillent.
Oui.
Ils vous font dormir dans la meilleure pièce.
C'est justement parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ce n'est pas on regarde comme ça et on essaye d'éviter. Non, c'est au contraire, on ne vous connaît pas. Hein. On n'a même pas vu à peine votre figure. Et on vient au-devant de vous. Bon, c'est un truc aussi qu'on trouve un peu sur les terrains des nomades. Ça aussi, le terrain des nomades, que ce soit ici, bon, un petit peu en Turquie aussi. Mais vous êtes accueillis, quoi. On vient vers vous, en tous les cas. On vous demande si vous avez bu avant de me demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes là.
Et justement, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, Jean-Louis Besson? Ouais, ouais. Maintenant que vous avez bu et parlé un peu. Ça fait 45 ans et même plus que vous voyagez. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez eu envie de vous arrêter? Est-ce que vous avez le sentiment que le voyage continue à vous apporter quelque chose? Je réfléchissais à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous aviez horreur d'accumuler, d'amasser. Mais quand on n'amasse pas, qu'est-ce qui fait que dans la vie, on a le sentiment d'avancer? Le voyage, justement?
Oui, le voyage, uniquement, je pensais ça, c'est le voyage. Disons que les seules fois où j'ai eu envie de m'arrêter, c'est un peu par amour, par affectif, voilà. Et avec toujours cerné par le... Ça a primé sur l'affectif, l'enfermement... du matériel autour de moi.
Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'était plus possible de rester.
Voilà. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe, par exemple, en ce moment dans ma tête, quand je rentre chez quelqu'un, y compris chez mes enfants, qui vivent assez simplement, hein, c'est pas... mais je suis encombré par les choses, tout d'un coup, voilà. Alors, je reste 2 jours, 3 jours, et j'ai besoin de souffler. Mais moi, j'ai eu une belle vie. Enfin, je veux dire, bon, j'ai sans doute fait quelques erreurs, hein, comme tout le monde, bien sûr. Mais c'est une vie choisie, hein. Enfin bon, j'aimerais mourir sur la route, voilà, en gros, quoi, terminer mes jours, là. Bon, maintenant, le jour où je vais être gravataire, enfin, oui, parce que ça aussi, ça peut me pendre au nez. Un gros problème physique, admettons, là, c'est vrai que ça va poser un problème. En dehors de ça, j'ai pas envie de m'arrêter. C'est trop nourrissant. Bon, surtout aussi parce qu'on a parlé des rencontres avec les gens et tout ça, mais il y a le rapport avec le cosmos, enfin avec l'univers. C'est en fait, j'ai pas précisé au départ, mais en fait ça c'est très important pour moi. J'ai cherché beaucoup ça, les paysages, rester au bord de la mer pendant des semaines ou pas tout à fait au même endroit, mais là et là ça apporte beaucoup.
La beauté du monde.
La beauté du monde, le calme, hein, le pas se précipiter dans l'état de. Je trouve qu'on se précipite assez vite dans les choses. Et voilà.
Le calme, c'est quoi? C'est le rythme du voyage? C'est le rythme de la journée?
Oui, le rythme de la journée. Bon, obligatoirement, de voyager avec les chevaux, qui n'a pas été toujours le cas, à la fin c'était motorisé, vous oblige à avoir un rythme lent. Il faut respecter les bêtes. Et après, vous êtes obligé de vous arrêter. Donc, une journée à minima, quoi, pour recharger les chevaux en nourriture. Donc ça, c'est déjà un tempo. Bon, après, la vannerie aussi, ça vous amène à... C'est un métier qui vous laisse l'esprit libre, quand même.
Vous vous levez avec le jour?
Oui, plutôt. Je suis un homme du matin, et j'apprécie beaucoup ce moment-là. Bon, par contre, je me couche aussi, pas avec le jour, mais assez tôt, comme les poules, me disent certaines. Et oui, c'est le rythme du matin, je trouve, c'est un rythme calme, donc ça va dans le sens de ce que je recherchais. Quand vous êtes dans un village et vous passez, même avec les chevaux tranquilles, donc tout ça c'est rythme, vous passez à 4 à l'heure, 5 à l'heure, et vous avez les personnes sur le côté de la route qui vous font bonjour et qui prononcent même pas un mot, vous avez la main qui bouge comme tout doucement, et ça c'est un grand plaisir, voilà. Et simplement le regard, vous croisez le regard, vous avez le temps de regarder la personne. Bon, ça m'est arrivé de voir une fois une personne dans l'entrebâillement d'une... porte, en passant au rythme du cheval, il y a une femme qui allait tremper son croissant dans la tasse, et en nous voyant passer, elle est restée le croissant suspendu. Voilà, ça c'est un flash.
Est-ce que vous décrivez aussi, ce sont des scènes silencieuses. C'est comme si le matin, il y avait moins de bruit.
Oui, voilà. Énormément de bruit, oui. Alors, parce que le soir, quand les gens vous disent bonjour, on sait salut, allez, viens. Voilà, bon, ça me correspond moins.
Et la nuit ?
Oh, la nuit, j'aime bien la nuit aussi. Mais bon, je dors le plus souvent. C'est encore autre chose. Bon, moi, j'ai pas peur de la nuit. Par contre, quand vous êtes avec des voyageurs, des Ziganes en particulier, ils ont plutôt une peur de la nuit. Parce qu'ils ont peur de rencontrer le mulot, ils appellent ça, c'est le revenant. Donc là, c'est particulier, là, quand on est sur un campement avec des Ziganes. À un moment donné, tout se ferme. Voilà, et quand vous avez besoin de quelque chose, si vous frappez, la porte s'ouvre. Ah, c'est toi, Jean-Louis. Bon, on rentre, mais hop, on ferme.
Non, parce que vous parlez du cosmos, moi je me suis dit, il va me parler des étoiles, tout ça, mais pas du tout.
Ah si, mais ça, bon, nous, comme on dit, on a les plus grandes toilettes du monde. Donc on a le temps de regarder les étoiles derrière une haie, ou voilà, et ça c'est important déjà. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Hein. Et quand vous êtes dans des ciels hyper dégagés, je me rappelle sur le Kurdistan, là-bas, des coins comme ça, j'ai jamais vu des ciels comme ça ici. Et là, ça vous... Vous voyez beaucoup plus d'étoiles, beaucoup plus, c'est tout gris. Et là, ça vous ramène à l'échelle humaine, quoi. Vous pouvez, je sais pas, écouter un discours politique pendant ce moment-là, vous vous trouvez ridicule, quoi, par rapport à tout ça, quoi.
Parce qu'en fait, vous êtes allé jusqu'au Kurdistan.
Oui, je suis allé en Turquie, Kurdistan, la Géorgie, jusqu'au Caucase, mais c'est des pays très accueillants, on va dire, hein. Et très beaux. Bon, il y a des immensités que j'avais envie de connaître. Des formes de montagnes, des formes de nuages que des fois le soir on voit que je ne connaissais pas. Bon, voilà, c'est des petits plaisirs qui m'ont enrichi.
Vous êtes enrichi en renonçant constamment à de plus en plus de choses, d'objets.
C'est pas un renoncement, ça s'est fait comme ça. Hein.
C'est vrai, le mot n'était pas bien choisi.
Non, moi j'ai pas. Voilà. Ça, c'est une question qui venait souvent quand certaines personnes nous approchaient. Bon, maintenant on dit bobo, ou des trucs comme ça, ou l'intelligentsia. Ils nous disaient. Quand vous avez tout lâché, qu'est-ce que ça vous a fait? Ou alors, quand est-ce que vous avez tout lâché? Mais non, moi, j'ai jamais rien lâché. J'ai jamais voulu avoir plus que le nécessaire.
Oui, en fait, c'est ça. Le mot était faux, mais l'idée que j'avais, c'était... Parce que là, on est dans votre caravane. C'est donc la troisième ou quatrième que vous avez eue dans votre vie.
Caravane, c'est la deuxième. On a eu une caravane quand je faisais les chantiers, oui, quand on avait 19 ans. Je me suis embourgeoisé, on va dire. Bon, c'est le plus... Bon...
Mais enfin, on n'est pas encore dans un mobil-home, hein.
Non, on n'est pas dans un mobil-home, non.
Ben non, mais justement, j'aimerais que vous nous décriviez un peu, parce que dans tout ce que vous avez décrit, votre refus des objets, votre peur d'être encombré et tout, on a finalement l'image presque d'un ascète, mais de fait, c'est pas du tout ascétique chez vous. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour vanter tout le confort et l'opulence, mais plus le goût de l'objet beau, oui. ou pas seulement de l'objet d'ailleurs, puisqu'il y a les fenêtres sont belles, les murs sont beaux.
Tant qu'à faire, autant vivre dans du beau, à mon avis. Et j'aime bien transformer aussi les choses. Bon, mais là, il y a quand même une cuisine intégrée, si on peut dire. Voilà, il y a quand même la cuisine intégrée.
Et... Oui, enfin, vous l'avez un peu désintégrée, Jean-Louis Besson.
Un peu désintégrée, mais...
Il faut tout dire, parce que sinon, ça ne va pas.
Oui, voilà. Mais...
Parce que le frigo, par exemple, est devenu un garde-manger.
Voilà, j'ai enlevé le frigo et j'ai mis à la place un garde-manger.
Et pourquoi ça?
J'ai eu pas mal de soucis avec ce frigo. Enfin, ça faisait pas frigo, ça faisait plutôt chauffage. Donc, puis l'habitude des garde-manger. Bon, les garde-manger, là, je n'ai pas pu le faire. Mais sur la charrette, les roulottes, on avait ça sous la roulotte. Et si vous avez l'occasion d'observer les gitans quand ils font la sieste, c'est dessous la roulotte. Il y a un courant d'air frigo, hein. Des fois, il faut même faire attention. On a d'ailleurs souvent le chat, les animaux vont se coucher dessous. Nous, on peut pas rentrer avec notre chaise, mais eux vont dessous. Donc là, le principe aussi, c'est il y a un courant d'air que j'ai fait, quoi, artificiel, mais il n'y a pas de moteur, et qui refroidit suffisamment la nourriture que moi j'emploie à mon compte. Je ne mange pas beaucoup de viande, pas trop de beurre, des choses comme ça. Donc y a pas, je mange comme un non-européen, non-occidental. Enfin, il n'y a pas de reste. Donc, quand je suis avec quelqu'un, on est obligé de manger la part et basta. Donc ça ne pose pas de problème. Sur ma première penderie de ma vie, là, derrière le miroir. Donc j'ai l'air un petit peu moins fripé que toutes ces années-là.
Et puis il y a énormément d'objets en... C'est de l'aluminium martelé.
Là, c'est de l'aluminium, mais c'est mon côté métal, pas musique, mais...
Mais vous avez gardé tous vos outils ?
Non, 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 non. Là, tout ce que vous voyez là, c'est fait avec des choses que tout le monde a dans sa boîte à outils, quoi. Des tournevis, des bouts de... C'est embouti. Embouti, ça... Oh, mais il n'y a rien de secret, là. Mais ça, avec trois fois rien, on arrive à faire une déco, quand même.
Et le poêle ?
C'est un poêle trouvé sur un vide-grenier. Et c'est un...
Il est minuscule ?
Il est minuscule. C'est le numéro 3. Je ne sais pas quel était le numéro de la fabrique. Mais c'est un rebut de fonderie, voilà, que j'ai récupéré et transformé pour faire... Ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a le problème, c'est que ça souffle dessus, donc ça fume un peu. Mais c'est largement suffisant pour un habitat comme ça, je pense, même s'il faisait très froid. Hein.
Les livres, il y en a ?
Alors les livres, il y a les livres de base, les livres un peu utiles, on va dire. Enfin, tous les trucs sur la difficulté de la langue française, les trucs comme ça, parce que j'ai du mal.
Avec la langue française ?
Avec les langues en général. Voilà, après, les petits bouquins sur les oiseaux, les champignons, des choses qu'on peut trouver. Il y a un dictionnaire de Zigane, quand je rencontre, que je puisse quand même communiquer un petit peu. Bon, tous les autres, là, le turc et tout ça aussi. Et un livre de recettes de Ginette, je ne sais plus comment.
Ouais, voilà. Des manuels, quoi.
Voilà. Les livres, après, bon... On m'en prête, je les rends, on m'en donne, je les fais suivre, c'est toujours comme ça. J'ai toujours des livres, hein. Je lis toujours.
Vous lisez, vous donnez.
Voilà, ouais. Ouais, même quand j'achète, je donne après. Des fois, ça m'arrive d'acheter des bouquins. Mais j'ai besoin aussi de lire comme ça. Bon, il y a la radio.
Vous écoutez la radio ?
J'écoute la radio. J'écoute France Culture. Non, mais oui, ça m'arrive quand même, ouais. Pas beaucoup. Je suis pas trop bruit non plus, ça aussi. Je suis pas trop bruit. Mes petits enfants me disent, ben oui, mais la musique, c'est pas du bruit, c'est la musique. Bon, oui, mais c'est, je suis pas trop fond sonore.
Vous n'écoutez pas de musique ?
Un peu aussi, quand même. Un peu, si. Je suis pas en dehors de la société. Hein.
Oui, j'étais en train de me demander si vous lisez les journaux, si vous intéressez à ce qui se passe.
Moi, je m'intéresse à la vie collective quand même si je semble comme ça un peu sur le... Enfin, c'est les gens qui me disent que t'es sur le côté, mais moi, je suis pas sur le côté. Je consomme, je paye pas d'impôts directs, évidemment, parce que depuis tout le temps, j'ai toujours des petits revenus, mais je paye les impôts directs. Enfin, quand j'achète du beurre, quand j'achète des choses, je paye des impôts. Donc, je fais partie du groupe quand même. Hein. Y a pas de... J'ai jamais cherché à fuir le groupe. Je rencontre aussi plein de gens, pour le dire quand même, qui vivent, il y a des fous partout, enfin des fous intelligents, enfin des gens qui font des tas de trucs. Et bon, ça manque de fédération un peu comme ça, mais il y a pas mal de gens quand même qui vivent des trucs. Mais
qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre des trucs ?
Qui sont installés dans une démarche de vie, on dit alternative maintenant. Ce que d'ailleurs vous trouvez, vous êtes en Grèce, vous trouvez plein de gens qui vivent, mais ils sont même pas de théorie, ils vivent comme ça depuis, enfin en Grèce ou ailleurs. Hein. Ils vivent comme ça, un petit jardin, une petite maison, ils n'ont pas de grande, une petite culture, quoi, mais ça va très bien. Et c'est vrai que chez nous, y a pas mal de gens quand même, des jeunes qui décident de vivre autrement quand même. Bon, sur la route, non, hein, pas beaucoup.
Les camionneurs ?
Les camionneurs, oui. Il y a aussi les travelers, bon, des gens qui voyagent avec beaucoup de matériel quand même. J'ai rencontré ça plusieurs fois, des gros camions. Avec comme la maison à l'intérieur, quoi.
Vous les fréquentez, tous ces gens que vous rencontrez, ou vous êtes plutôt un solitaire ?
Non, 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 non. Quand je vois quelqu'un arrêté comme ça, ou qu'on me le dit, bon, je me précipite pas, mais j'essaye de rencontrer. Alors des fois, ça se passe très bien, d'autres fois, bon, là, on fait pas le même voyage. Dans les camping-caristes, là, c'est un gros... Il y a une grosse arrivée de camping-caristes, des gens de ménage, là. Alors dans le tas... J'arrive encore quand même à voir, mais c'est pas fréquent. Hein. Moi aussi, je suis pas tenté d'aller les voir, c'est vrai. De toute façon, il y a mille voyages, mille personnes, mille voyages, hein, c'est clair.
On aurait envie, Jean-Louis Besson, de trouver des adjectifs pour parler de vous, mais il n'y en a aucun qui colle. Vous n'êtes pas un décroissant, vous n'êtes pas un gitan, vous n'êtes pas un rebelle.
Bon, non, je ne pense pas. Il y a des portes que je ne veux pas franchir, évidemment. Hein, ça... Mais bon.
Vous pensez à quoi ?
sur le mode de la consommation, par exemple. Voilà.
C'est ça qui fait penser à la décroissance. C'est que voilà. Votre révolte, elle est vraiment contre la consommation.
Je me toujours dans un. J'ai pas eu tellement besoin de décroasser, parce que j'ai jamais croissé, voilà, on va dire. J'ai jamais cherché. C'était le but, c'était justement de pas. Mais c'est pas théorique, hein. Ça s'est fait comme ça. Dans ma vie, j'ai rencontré plein de gens qui sont mis comme ça sur ma route et ça a continué d'entretenir cette idée de vivre avec pas sans rien, hein. C'est pas une question d'asset, non, c'est mon parcours et ça s'est trouvé que ça s'est bien. Bon, c'est arrivé aussi, je pense, dans une époque où les années 60. Où on a commencé à critiquer un peu le résultat du plan Marshall. Enfin, en gros, moi, j'appelle ça comme ça. Hein. Mais où on a commencé à nous lancer là dans la chose où on est arrivé maintenant. Hein. Voilà. Donc, ça correspondait à mes idées. Donc, ça roulait, la contestation.
Donc, vous êtes toujours dans la contestation?
Je suis toujours... oui, quand même, oui. Je pense, oui. Oui, je pense qu'on file un mauvais coton. Mais bon, enfin, que globalement... La société et le monde filent un mauvais coton. La pauvreté, mais bon, j'ai passé des endroits quand même où vraiment les gens n'ont pas un dollar par jour pour vivre. Et là, ça vous remet... Bon, vous allez acheter avec des gamins dans une épicerie des gaufrettes. Les gamins, ils achètent gaufrettes par gaufrettes. Vous voyez, ça, on n'imagine pas. On peut imaginer, mais on ne sait pas ce que c'est. Et les gamins, ils vont manger que ça le soir, par exemple. Des choses comme ça. Donc ça, c'est pas du tout comme moi. Enfin, je veux dire, c'est pas voulu là. Cette pauvreté. Enfin, moi, c'est même pas une pauvreté. Je reste toujours dans un niveau de vie. Mais bon, pour revenir au marasme actuel, quoi, c'est vrai que quand vous êtes confronté à ça, où vous travaillez sous-payé avec des réfugiés, des choses comme ça, il y a un peu quand même, on a un peu les boules, hein, comme on dit. Et c'est aussi, je me trouve des fois dans des situations. Bon, moi je sais qu'il ne faut plus que je rentre dans les hypermarchés. Vous voyez, il y a deux ou trois fois, j'ai failli péter les plombs. C'est comme trop, il se passe un truc à la caisse, moi je deviens fou, quoi. Et violent, hein, donc je ne vais plus dans ces trucs-là. Bon, pour acheter, mettons, de la lessive ou des trucs de base. Donc voilà. Donc de ce côté-là, je suis effectivement un peu. Peut-être aigri aussi, hein.
Et sur la circulation elle-même. Une fois, il y a des années, il y a un gitan qui m'a dit « Les gitans sont le sang de la terre. S'ils arrêtent de circuler, la terre meurt. »
Ah oui, alors c'est leur truc à eux. Mais moi, je pense que on a laissé trop de côté. Bon, d'abord, moi, les gens, quand ils me disent les nomades... Bon, j'ai dit d'abord, on était là avant vous, pour commencer. Bon, avant les sédentaires, il y a eu les nomades. Bon, alors... Ça, c'est pour l'anecdote. Mais on ne tient pas assez compte où on a la philosophie nomade. Bon, la philosophie nomade. Et moi, je pense, oui, si tous les nomades finissent, s'il n'y a plus de nomades, c'est un peu la fin de quelque chose.
Mais qu'est-ce que vous appelez la philosophie nomade, Jean-Louis Besson?
Ah oui, alors, la philosophie nomade, ben, c'est rester léger. Et dans un monde le plus proche de la nature. Enfin, et quand on les voit, les pauvres, alignés comme ça, sur des parkings, sur le goudron, avec une ligne blanche. Alors évidemment, ils ont un petit cabinet, un chiotte, avec un robinet d'eau, bon, voilà. Mais ils sont là, complètement coincés. Ça, c'est la fin, c'est sûr. Hein.
Et vous pouvez éviter ces endroits-là?
Oui, alors moi, voilà, je peux éviter d'abord parce que je connais la loi. La loi jusque maintenant, bon, là encore, ça vient de changer. Donc, ça va maintenant, on ne va plus pouvoir tenir ce genre de truc. Mais avant, la loi... dans un village, on devait, si vous vous présentez comme nomade, même que vous soyez 3 ou 4 caravanes, hein, la loi, c'était obligé de vous garder à minima 48 heures. Voilà. Bon, et De Gaulle avait rajouté avec un point d'eau. Bon, ça est arrivé plusieurs fois que moi j'ai demandé le point d'eau, et on m'a dit l'eau, les cabinets, pourquoi pas chez moi, des maires hein, qui m'ont sorti ça comme ça. Bon, alors ça c'est pour l'anecdote, mais... Vous arriviez, et ce texte de loi, quand même, vous protégeait pour 48 heures. Les 48 heures, c'est minimum. Monsieur le maire, c'est pas maximum. Le maire, souvent, venait le lendemain dire, bon, maintenant, ça fait deux jours que vous êtes là, vous partez. Alors, après, vous avez le minimum, en grattant dans le code civil d'autres bouquins, là, le minima devient maximum si vous troublez l'ordre public. Alors, toujours, Mais quelqu'un, c'est pas... Non, mais bien sûr que non, personne ne vous reproche quoi que ce soit. Et ben, dans ce cas-là, on reste encore. Vous voyez, maintenant, c'est fini. Bon, il faut aller dans des terrains fixes, des parkings, quoi.
Est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui des minuscules recoins qui échappent au système ?
Et bien alors, si vous êtes vraiment en milieu rural, petit village, et encore c'est pas sûr, mais enfin il y a plus de facilité, voilà. Ou alors après, vous avez les grosses, grosses villes, où il y a les friches industrielles, les trucs comme ça. Mais après, dans toutes les zones, notamment le long du littoral en général en France, même sur l'Atlantique, hein, c'est tellement aménagé, tellement propre. C'est tout, ça ressemble un peu partout pareil, c'est tout balayé, c'est tout, enfin bon, il y a pas une, y a les, et puis ça va, c'est crescendo, parce qu'il faut bien employer les municipaux, enfin je sais pas. Donc, là, il y a, c'est difficile de trouver la place, là, dans ce truc-là. Par contre, si vous vous éloignez de ces choses-là, donc que vous êtes pas en milieu touristique, mais alors là, vous perdez un peu le paysage, enfin, un peu la mer, des choses comme ça, là, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est pas évident, hein, encore dernièrement, enfin moi, c'est, moi, je me déplace assez souvent. Là, dans les Landes, je me suis ramassé encore deux. J'étais tout seul sur un bout de parking. Une autre fois, le long d'une friche à côté d'un stade. Enfin, voilà. Donc, on est venu me dire. Alors, ils se présentent toujours comme ça. Bon, pratiquement toujours comme ça, ceux qui veulent vouloir partir, quoi. Bonjour, monsieur. Quand est-ce que vous partez? Ou alors, bonjour, monsieur. Combien de jours vous allez rester? Bonjour, monsieur. Voilà. Donc moi j'ai même fait remarquer à un homme là, qui m'avait dit ça, bonjour monsieur, quand est-ce que vous partez? Et moi je lui avais dit, c'était un jeune garde champêtre qui avait remplacé le vieux, qui avant lui nous accueillait. Et je lui dis, vous allez pas bien parce que vous venez de nous souhaiter bonne journée, bonjour, et vous nous cassez la baraque, vous nous dites, vous savez très bien qu'en nous disant de partir, on va avoir une sale journée, voilà. Donc ça l'a fait quand même réfléchir ce truc-là, mais les trois quarts du temps, mais c'est l'antinomie nomade. Enfin, je pense qu'il y a une antinomie, enfin une opposition dans la façon de vivre, dans la vision de la vie. Enfin, des fois, j'écoute des émissions de radio. Bon, et je suis jamais tombé sur des gens qui justement parlaient de cette vision. On est installé dans une normalité sédentaire. Et rares sont même les philosophes et tout ça. J'ai toujours rêvé quoi d'entendre un philosophe, un ethnologue, enfin de parler un peu de cette vision qui est complètement différente. Un nomade n'est pas un sédentaire qui voyage. C'est complètement différent. C'est deux choses différentes. Voilà. Et je sais pas, je mets un plus sur l'un ou sur l'autre. Hein. Non. Il y a des gens qui vous font des voyages, qui font des très beaux voyages. Intelligent, il y en a beaucoup qui font les voyages et il faut mieux rester à la maison. Mais après, il y a cette façon de voir c'est un ensemble. C'est pas simplement une question d'espace, de robinet d'eau.
Mais vous pourriez me donner un exemple de cette vision différente?
Bon, il y a par exemple la notion de propriété privée. Bon, ça c'est quelque chose qu'un voyageur, un gigane encore moins, n'a pas mais l'ombre d'un soupçon. On se bat jamais pour ça. Ça, c'est une des données, par exemple. Bon, à partir de cette donnée-là découle plein de choses. Donc sur l'espace, sur les communaux. Il y avait beaucoup de communaux. Moi, quand j'étais gamin, vous arriviez même un homme avec ses vaches. Il y avait Marcel qui faisait packager là-bas, l'autre bout. Alors ça, vous trouvez ça dans les pays étrangers, là, Turquie, tout ça, même au Portugal, hein, il y a des espaces communaux. Et alors, il y a des communes qui vendent les communaux. Pour installer quoi? Mais pas du tout quelque chose pour nous accueillir, pour accueillir quelqu'un qui va, pas spécialement les voyageurs, mais quelqu'un qui arrive, quoi, qui a besoin d'un truc. Ça peut être un camping-car qui vient voir de la famille ou simplement, je sais pas quoi. Et ça découle de la propriété privée. La propriété privée, bon, alors, c'est du hall, on va dire. Mais c'est un drôle de problème. Moi, quand je suis né, on était 3 milliards. Maintenant, on est 7 milliards. Et personne ne veut partager. Il serait peut-être grand temps qu'on remette ça en question. Donc ça, c'est un truc que chez les gens qui se déplacent, même si on nous demande, là, faut pas vous mettre là, faut vous mettre là, c'est pas un problème. On se déplace, on s'occupe pas, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas. Ça, c'est très important. Et découle plein de choses là-dessus. Parce qu'on tourne, quand même autour de ça, hein, la propriété privée et le patrimoine.
Et ça, le patrimoine
pas. Le patrimoine, l'accumulation, après, qu'on partage avec la famille. Hein, on ne partage pas ça. Alors ça, c'est des acquis. À mon avis, c'est à revoir tout ça. C'est à revoir. Je ne suis pas pour le collectivisme, hein, mais il faut trouver une formule. Et c'est grand temps qu'on trouve une formule. Et tout le reste découle de ça. Tout le reste découle de ça. Parce que nous, au départ, on est parti un peu en militant, avec la première caravane à chevaux. On arrivait à l'entrée d'un village, on allait demander l'endroit où se mettre. Alors, je ne vous dis pas, on est resté des fois attelés. Et voilà. Alors, c'est parce que le maire n'est pas là, l'adjoint ne veut pas prendre. Enfin, ça a toujours été comme ça. Alors, après, quand ils sont ensemble, vous êtes là, et c'est souvent que j'ai entendu, ah bah tiens, il n'y a qu'à les mettre là-bas, il serait bien. Oui, mais là-bas, il y a André. Alors, André, c'est le voisin qui ne va pas nous tirer dessus, mais qui va créer des problèmes. Voyez, c'est toujours ce truc-là de propriété, de décision, qui gère. Hein, c'est comme ça. Et ça, c'est une différence essentielle de la vision du voyage. Voilà. À partir du moment où il y aurait des grands espaces communaux. Quand moi, ça m'est arrivé même à Athènes de m'arrêter en plein milieu d'Athènes, enfin à 2 kilomètres de l'Acropole, on est quand même, parce que Athènes, c'est une sacrée, c'est très grand, hein, sur un endroit où il y avait une autre petite voiture, il y avait un tas de planches, il y avait un truc, on ne sait même pas à qui c'est. Ça, enfin, moi, je n'ai pas su à qui c'était. Les gens autour savaient sans doute à qui c'était. Moi, je me suis mis dessus, il y avait des Pakistanais qui ramassent la ferraille avec des caddies dans les villes. Hein. Alors là, ils souffrent ces gens-là. Il y a des caddies dans les rues d'Athènes et ils ramassent donc les capsules, les bouteilles de bière, l'aluminium. Ils se jettent dessus. Hein. Moi, j'ai vu, il y a deux pour une capsule. Hein. Bon. Et là, il y a un espèce d'espace où, si vous arrivez, vous vous mettez là. Hein. Voilà, personne ne vous dit rien. On vient vous dire bonjour, quoi. Bon, à part ces coins-là, chez nous, c'est tellement réglementé, ça a formaté une société.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez réécouter Jean-Louis Besson sur notre site franceculture.fr. Vous pourrez même télécharger cette émission pendant 1000 jours. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin et Anne Gouzon pour la revue de web. Mixage, Cédric Chatelu. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.